Radio Bar, on se retrouve pour notre deuxième partie sur cette 20e de la saison. Tu as prévu, Michel, pour cette deuxième partie du sommaire, de nous parler de la coopération envisagée entre les deux grandes métropoles de notre région.
Oui, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de la grande région, hein, la nôtre, hein, oui. Jean-Claude. Hein,
je Languedoc-Roussillon, Méditerranée. Tu adores et tu as de quoi dire.
Alors c'est vrai qu'elle s'installe. Hein, donc le conseil régional s'est réuni à Toulouse. Hein, la présidente a été élue, Madame Delga. Onesta a été élu lui aussi président du bureau. Cette innovation
de son machin,
très singulière,
dont
on va voir effectivement ce qu'il va produire. Hein. Et parallèlement à ça, et on en a peu parlé pendant la campagne régionale, et pour cause, hein, parallèlement à cette mise en place de la nouvelle institution régionale, les deux métropoles de Montpellier et de Toulouse se sont réunis récemment pour signer une convention de coopération et notamment sur un point, à savoir la participation commune à travers un stand commun à des salons ou des congrès où elles présenteront leur métropole et assureront la promotion de leur métropole, tant sur le plan économique que sur le plan de la culture, que sur le plan du tourisme.
Oui, mais ça, alors, c'est assez surprenant parce qu'on pourrait s'attendre que ce soit la région qui assume cette responsabilité
voilà.
commune.
C'est de cela dont je voulais parler très rapidement parce qu'à travers justement cette signature de cette convention, hein, c'était bien mon propos justement que de mettre en évidence que sur des sujets et des thèmes comme cela, hein, les métropoles ont les moyens et la capacité, hein, de s'organiser pour promouvoir leur propre territoire indépendamment de la région qui n'a même pas encore défini, soit la compétence tourisme, par exemple, dont elle est la chef de file, je parle de la région, ce qu'elle va faire, comment elle va le faire et avec qui elle va le faire. Là, en l'espèce, quand même, on a affaire à deux métropoles, hein, qui ont décidé de prendre le devant et de faire passer le message suivant à la région. Hein, Madame Delga, Madame la Présidente, certes, vous êtes présidente de la région, mais nous, Sorel, et moi, Moudin, les Républicains, et Sorel, indéfini,
indépendant, si l'on veut.
Nous sommes capables de nous organiser par nos propres moyens pour, sur des thématiques que nous partageons avec vous, développer notre propre promotion de notre capacité.
Alors, ce qui est une façon à peine déguisée de dire, Madame Delga, nous pouvons vous court-circuiter.
Oui, ou en tout cas, comptez sur nous pour peser dans le débat sur ces questions-là. La preuve. Si vous ne faites pas, nous ferons. Et si vous ne faites pas comme nous souhaitons que vous fassiez, peut-être que nous ferons différemment. Alors, pour donner d'ailleurs un autre exemple, hein, du poids des métropoles dans le dispositif régional, il faut savoir, hein, peut-être que nous...
Parlons budget.
Peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais que si on additionne les deux budgets, alors je vais prendre les budgets 2015 des deux métropoles. Montpellier et Toulouse. Si on additionne les deux budgets de Toulouse et de Montpellier, nous avons un budget équivalent en euros 2015 à celui de la région.
Oui, ce qui n'est pas rien.
Ce qui n'est pas rien. Donc deux métropoles, en termes de budget consolidé, égale le budget de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. J'avais, à l'occasion d'un billet pendant les régionales, fait observer qu'il ne fallait pas surestimer le poids de la nouvelle région compte tenu des compétences et des moyens qui lui étaient alloués et qui, au regard de ceux dont disposent et dont jouissent les deux métropoles et d'autres collectivités, sont relativement dérisoires. Parce que si nous devions ajouter à ces deux budgets consolidés des deux métropoles de Montpellier et de Toulouse, les budgets consolidés des 13 départements qui ont encore la compétence en collège et route,
oui.
Ainsi que les budgets des, je n'ai pas le compte exact en tête, de toutes les agglomérations
des
régions, on se rendrait compte que le budget d'intervention de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, au regard du budget consolidé de l'ensemble de ces collectivités, est relativement dérisoire. Donc, le message est le suivant, certes, bon, la région est en place, mais ne surestimons pas trop, hein, sa capacité d'intervention, notamment sur un domaine comme l'emploi. Alors, j'ouvre une parenthèse. Dans ce domaine précis, l'emploi, il y a eu une réunion organisée à l'initiative du Premier ministre Manuel Valls à Matignon, à laquelle il avait invité les présidents des nouvelles régions.
Oui, dont Madame Delga.
Pour justement mettre en place une coopération sur un sujet qui est la formation. Mmh. La formation des chômeurs, puisque l'ambition du gouvernement, c'est de doubler le nombre, passer de 500 000 à 1 million. ce qui est un pari extraordinaire et qui, à mon sens, ne sera pas réalisé, en tout cas dans l'année qui vient.
Ben certainement pas en une année.
Hein. Mais voilà, par contre, sur une compétence qui est quasiment exclusive de la région, hein, je parle de la formation, voilà effectivement un domaine sur lequel la région peut intervenir, mais encore une fois, à la périphérie, hein, mais bon, qui peut être important, hein, mais quand même.
Mais si elle doit intervenir, que cela soit de façon réaliste.
Que ce soit de façon réaliste, et bon, elle peut le faire dans le domaine de l'emploi, mais bon, encore une fois, il faudra beaucoup d'initiatives et beaucoup d'efforts pour arriver à faire passer, avec ses autres amis et ses autres collègues présidents de région, hein, le nombre de chômeurs formés de 500 à 1 million. On n'y est pas encore. Hein.
Pour terminer cette deuxième partie, zoom sur Narbonne, en commençant par l'aspirateur. Alors l'aspirateur, c'est ce fameux bâtiment qui était destiné au démarrage à collecter des ordures, oui, qui a connu un destin curieux.
Oui, oui, il était destiné à aspirer des ordures ménagères.
D'où son nom.
Quand Michel Moynier était aux affaires, il était aux affaires et qu'il avait le projet de créer un quartier écologique, hein, bon, qui a été abandonné par Jacques Bascou et qui a transformé le dit aspirateur en art. ART, aspirateur d'une certaine manière, puisque depuis, il reçoit des artistes, ou en résidence, ou des expos d'œuvres d'artistes d'art contemporain.
Et alors toi, tu t'interroges sur l'avenir de cette
chose.
Oui,
parce que c'est la fille de Piet Mauger qui est décédée récemment, qui est un peu la maîtresse d'ouvrage, hein, de cette affaire-là, la maîtresse d'œuvre de cette affaire-là. C'est elle qui est en charge de choisir, de trouver les artistes et puis de les accompagner pour leurs installations en aspirateur. Et il semblerait, mais bon, j'adresse un message à la ville de Narbonne, peut-être que je suis mal informé, que les rumeurs sont infondées justement, mais il semblerait que cela soit un peu remis en question ou reporté au calendrier grec, si je puis dire. En tout cas, bon, toujours est-il que, voilà, il n'est pas sûr du tout que ce qui était programmé là par Leïla Mauger soit effectivement réalisé. Il semblerait que du côté municipal, du côté de son ministre de la Culture, M. Penet, on soit un peu rétif à l'art contemporain et à l'utilisation de cet aspirateur. Certains même évoquent en sourdine, mais peut-être que M. Michaud pourra nous répondre à cette question, que l'aspirateur, idéalement placé à côté du futur Murena, pourrait servir de centre, sinon de retraitement, en tout cas de restauration de certaines pierres.
Voilà. Donc attendons pour en savoir un petit peu plus sur les aspirations culturelles de la mairie de Narbonne.
Exactement.
Terminons sur un sujet narbonnais également, Monsieur César, qui alors apparemment a raté son entrée dans la présidence du parti Les Républicains,
oui,
dans l'Aude.
Il a pris, comme on dit dans notre région, mais peut-être partout ailleurs, une sacrée veste, hein, Monsieur César. Il sortit un peu tout nu, sauf
que une veste ou une toge.
Une toge, voilà. Il ne reste plus qu'une couronne pour cacher tout le reste. Donc il a vraiment pris. Bon voilà, il a été battu.
Bon, il a fait 21%. Il a fait 21%, disons.
Certaines mauvaises langues m'ont dit que son Narbonneville a fait 10 voix, hein, sur le nombre de voix de la circonscription.
Ça mériterait confirmation.
Confirmation, bon, je dis, hein, il semblerait. Hein. Alors, ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un petit pastiche d'auteur que peut-être nos auditeurs reconnaîtront.
Tu as publié sur ton blog.
Que j'ai publié sur mon blog et que je vais, si tu me le permets.
Mais bien entendu.
Déclamer, puisque bon, il s'agit d'un.
À vous, cher maître.
Et César fut vaincu. Delecat éparpille, de Carcassonne et Chéza, ses ambitions par eux deux réunies promptement furent anéanties. Celle de Mouly, de son prénom Didier, aussi. Tant à les voir marcher un tel visage, les plus épouvantés pourtant prenaient courage. Mais rien n'y fit. En arrivant au port, malgré grand raffort, ce fut un beau naufrage, et le sien, de César, et celui de Didier Mouly. De cet équipage, deux leçons pour adage. Si aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, on reconnaîtra Corneille. Le premier signe de l'ignorance, c'est de présumer que l'on sait. ce dernier vers étant signé Balthazar Gracian, l'homme de cour. Voilà ce qui m'a inspiré cette petite mésaventure, plutôt cette petite escapade de Monsieur César en direction de la présidence des Républicains dans l'Aude.
Voilà, et avant de marquer une deuxième pause, peux-tu nous rappeler ce dernier adage que beaucoup devraient méditer ?
Le premier signe de l'ignorance, c'est de présumer que l'on sait, Jean-Claude.
Voilà, nous avons toute une pause pour y méditer.